Bonjour à tous. Alors c'est avec une grande joie que je vous salue les uns les autres, et particulièrement celles et ceux qui viennent nous visiter pour la première fois, je suppose aussi par rapport à ce dimanche particulier de baptême. Soyez donc les bienvenus et j'espère de tout cœur que vous puissiez sortir de ces lieux avec le sentiment d'avoir reçu quelque chose de la part de notre Seigneur, parce que Dieu a un message ce matin pour chacun d'entre nous. Dieu a un message. Alors, comme vous le savez, c'est un dimanche particulier, important pour trois personnes. Il s'agit de Fédeline, de Carla, de Frédéric, qui sont un peu disséminés dans l'Église. C'est un jour important pour eux et aussi pour l'Église, parce qu'ils vont exprimer publiquement, en parole et en acte, ils vont exprimer leur appartenance à Jésus-Christ. En parole, parce que tout à l'heure, vous allez entendre leur témoignage parler. Ils vont témoigner de leur foi en Jésus. Et en acte, parce qu'ils vont passer tout à l'heure par les eaux du baptême. Alors, un petit mot sur le baptême, bien sûr. On pourrait avoir tendance à penser que c'est un rituel religieux, un passage obligé, une sorte de tradition de l'Église. Mais en fait, le baptême, c'est d'abord un acte d'obéissance au Seigneur. Christ a ordonné à ses apôtres de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est un acte d'obéissance. Et ça constitue aussi, pour le croyant, donc un engagement, un témoignage, une confession publique de la foi, de leur foi en Jésus, leur appartenance à Jésus. Et le baptême, enfin, c'est un acte qui est volontaire, un acte qui est réfléchi, un acte qui est conscient. Si nos trois amis vont passer ce matin, donc par ces eaux du baptême, ce n'est pas par conformisme, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu des pressions de la famille ou de l'Église pour absolument que tu te fasses baptiser. Ils se font baptiser parce qu'ils ont été éclairés par le Saint-Esprit, qui les a tout simplement convaincus d'obéir à cet ordre d'être baptisés et de proclamer publiquement leur foi. Alors, un petit mot aussi sur la forme du baptême. Vous l'avez peut-être compris, hein, nos trois amis vont être complètement immergés dans cette petite piscine. Alors, rassurez-vous, ils ne vont pas rester immergés indéfiniment. Parce qu'en pratiquant le baptême par immersion, l'Église protestante évangélique de Palaiso, cette église-ci, en pratiquant ce baptême, nous nous efforçons d'être le plus fidèles possible à la pratique originelle du baptême qui avant consistait à plonger entièrement le corps dans l'eau et à le ressortir après. Ceci dit, ils ne viennent pas pour accomplir un acte magique, un acte qui purifie, un acte qui lave, qui guérit de telle faiblesse ou de telle maladie, non. Mais, je le répète encore, pour témoigner de leur appartenance au Seigneur Jésus. La Bible dit que le baptême n'est pas une purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement. En résumé, le baptême, c'est un acte essentiellement symbolique, c'est un signe. Et donc, en se faisant baptiser, nos trois amis vont témoigner qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils vont témoigner qu'avant, ils étaient morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Et que désormais, ils sont ressuscités avec Christ, parce que Christ est ressuscité, il est vivant. Et ils vivent une vie nouvelle avec Christ. Voilà le sens de leur témoignage. Alors, je vais vous proposer de lire un passage biblique qui se trouve dans Éphésiens. On va garder ce même épître. Au chapitre 2, les versets 1 à au verset 5. Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 5. Éphésiens 2, 1 à 5. Voilà ce que nous lisons au nom de Jésus. Alors moi, je vais lire la version Semeur. Ici, vous avez peut-être une version légèrement différente, mais ça veut dire exactement la même chose. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisons autrefois toute partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand il a écrit ce passage, l'auteur, qui s'appelle l'apôtre Paul, s'adressait à des chrétiens, à des gens qui croyaient en Jésus, à des gens qui avaient mis leur confiance en Jésus-Christ. Et il leur rappelait leurs conditions avant de connaître le Seigneur. Il leur rappelait aussi comment ils ont été sauvés, comment ils ont été sauvés de la mort spirituelle dans laquelle ils étaient. Et dans ce texte que nous avons lu, il y a deux affirmations importantes. La première affirmation, c'est celle-ci. Vous étiez morts autrefois à cause de vos fautes et de vos péchés, dans le verset 1 du passage qu'on a lu tout à l'heure. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. C'est un passage qui peut paraître un peu surprenant de la part de l'apôtre Paul, mais quand il affirme cela, c'est une manière de décrire la condition de l'homme avant de connaître Dieu. La condition de l'homme sans Dieu. En fait, à l'origine, l'être humain a été créé par Dieu, et il a été créé bon, il a été créé parfait à l'image du Dieu qui est un Dieu parfait. Et malheureusement, l'homme s'est détourné de Dieu, il s'est rebellé contre Dieu, il s'est détourné de son Créateur. Et résultat, Dieu a décrété la mort de l'homme. L'homme s'est rebellé contre Dieu, il a renié l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde qui est marqué par cette rébellion, un monde qui est marqué par le péché, un monde déchu dans lequel les valeurs morales petit à petit disparaissent. Un monde qui refuse les repères qui constituaient les fondements même de notre société. Un monde qui, malheureusement, promulgue des lois qui ruinent les bases de la famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un monde qui veut complètement évacuer tout ce qui touche à Dieu. Voilà le monde dans lequel, voilà la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. En tout cas, dans la société occidentale. Pourtant, l'homme a toujours eu besoin de connaître le sens de la vie. Et il se pose souvent des questions existentielles à un moment donné de sa vie. Et j'ose penser que vous aussi, qui êtes là, à un moment donné, vous vous êtes posé cette question. Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi suis-je né dans cette famille et pas dans une autre? Pourquoi suis-je originaire de tel pays et pas d'un autre? Pourquoi suis-je de telles conditions sociales et pas de... etc., etc. Ce sont des questions existentielles que chacun peut se poser, et souvent on se les pose trop tard quand c'est la fin de notre vie. Malheureusement, pour tenter de répondre à ces questions, l'homme choisit le plus souvent de mettre Dieu de côté et d'orienter ses recherches plus dans la philosophie, dans le matérialisme, dans le savoir scientifique, etc., etc. Vous savez qu'aujourd'hui, la France détient un record assez triste, l'un des pays les moins croyants au monde. Et d'après un sondage effectué par le Figaro il y a plus de 7 ans, c'était en 2009, eh bien moins d'un Français sur 4 croit en Dieu. Et peut-être que cet aspect s'est empiré. Or, chers amis, nier l'existence de Dieu, c'est ça, l'acte de rébellion contre Dieu. Parce que l'homme choisit délibérément de se détourner de son Créateur. Et c'est une offense vis-à-vis de Dieu. Et du coup, la Bible affirme quoi ? Que tout le monde est fautif, tout le monde est pécheur devant Dieu, tout le monde sans exception. Et la conséquence de cette rébellion, c'est cette mort que nous avons vue là tout à l'heure. Non seulement la mort physique qui tôt ou tard sera le lot de tout le monde, qu'il soit croyant ou non croyant, mais c'est une mort qui commence déjà par une mort spirituelle, la séparation avec Dieu, même si physiquement nous sommes encore vivants. Et c'est ça que rappelait Paul à ses chrétiens quand il a écrit ce passage que nous avons lu. Autrefois vous étiez morts. La vie véritable, chers frères et sœurs, la vie véritable, la vie éternelle, c'est la communion avec le Dieu vivant, tandis que cette mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Il y a un passage dans la Bible qui dit, dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, qui dit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, je ne sais pas comment est-ce que nous nous situons par rapport au péché. Le péché est devenu un gros mot dans notre vocabulaire quotidien. Alors, peut-être que nous pensons être des gens bien sous tout rapport. Peut-être que nous nous estimons être des personnes respectables, bien élevées. Peut-être que nous n'avons jamais fait de mal à une mouche et que nous nous sentons irréprochables. C'est légitime de penser cela. Pourtant, la Bible affirme que devant Dieu, nous sommes tous coupables. Tous ont péché, dit la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 12. Et dans notre lecture de ce matin, l'apôtre Paul confirme bien ce sombre diagnostic. Notre condition avant de connaître Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. En fait, quelle que soit l'opinion que nous faisons de nous-mêmes, devant Dieu, le verdict, il est sévère, il est inéluctable, il est sans appel. Nous sommes tous pécheurs, tous coupables, et nous méritons tous la colère de Dieu, c'est-à-dire la mort. Et nos amis qui vont se faire baptiser, ainsi que toutes celles et ceux qui ont accepté aussi le message et qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur, ils ont bien compris qu'avant de se tourner personnellement vers Dieu, ils étaient aussi dans cet état de mort spirituelle. Ils étaient aussi condamnés à mort. Mais Dieu a préparé une issue heureuse pour celles et ceux qui veulent mettre leur confiance en lui. Et cette issue, chers amis, ce n'est autre que le don de Jésus-Christ. Et c'est là que nous arrivons à cette deuxième affirmation, la première étant que autrefois nous étions morts, nous étions morts par nos péchés, mais la deuxième affirmation, elle se trouve au verset 4 et 5 de ce passage que nous avons lu. Mais Dieu est riche en bonté. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, chers amis, Dieu est avant tout un Dieu saint. Il est important que nous en soyons conscients. Dieu est avant tout un Dieu qui ne supporte pas le mal. Il y a un passage qui dit « Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter le mal, pour voir le mal. » Et c'est pour cela que normalement, à cause de nos péchés, nous méritons cette colère de Dieu, nous méritons cette mort éternelle, cette mort spirituelle. Mais Dieu est aussi un Dieu riche en miséricorde. Et c'est pour cela qu'il a préparé de toute éternité un plan. Un plan pour sauver l'humanité. Dieu est intervenu afin de changer radicalement notre condition sous l'emprise du péché. En un mot, Dieu veut nous sauver. Et de mort que nous étions, il nous a rendus à la vie, non pas parce que nous le méritions, mais uniquement par grâce. Encore ce mot qui revient. Nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est uniquement par grâce que nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous étions morts et donc incapables de nous sauver nous-mêmes, et seule cette grâce pouvait nous soustraire à notre triste sort. Mais qu'est-ce que la grâce, chers amis, qu'est-ce que la grâce? Pour essayer d'en comprendre le sens profond, je vous propose une petite anecdote. Un jour, une mère s'approcha de Napoléon. Napoléon, vous savez, le célèbre empereur des Français vers le 19e siècle. Une mère s'approcha de Napoléon pour solliciter une grâce pour son fils, qui était condamné. Et l'empereur répondit que le jeune homme avait commis une faute tellement grave, une offense tellement grave, à deux reprises, et que la justice, cette fois-ci, exigeait la mort. Et la maman répondit, « Je ne demande pas la justice. » Je plaide pour une grâce. Votre fils, répondit Napoléon, ne mérite pas de grâce. Et la maman cria, sire, ce ne serait plus une grâce s'il la méritait. Et une grâce, c'est tout ce que je vous demande. Eh bien, dans ce cas, reprit l'empereur, je vais lui faire grâce. Et il épargna le fils. Chers amis, la grâce de Dieu, c'est une faveur immérité. C'est le reflet de la miséricorde de Dieu et rien de plus. C'est un acte absolument gratuit. C'est un cadeau donné à celles et ceux qui ne le méritent pas. Et en ce qui me concerne, nous étions tous coupables devant Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu d'avoir violé la loi de Dieu. Et nous sommes comme des condamnés à mort en attente d'exécution. Et tôt ou tard, cette sentence sera exécutée, à moins qu'entre-temps, la grâce de Dieu n'entre en jeu. Et justement, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que cette grâce est entrée en jeu pour celles et ceux qui ont reconnu en eux-mêmes qu'ils étaient perdus à cause de leur faute. Et cette grâce est entrée justement en jeu pour nos trois amis aussi qui vont se faire baptisés ce matin. Ils ont compris la grandeur de cette grâce. Ils ne méritaient pas cette grâce. Parce qu'une grâce, ça ne se mérite pas. Cette grâce est absolument gratuite. Ce n'est pas à cause de nos mérites, à cause de nos œuvres, mais en vertu de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Et comment cette grâce a été manifestée? En ce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour subir la condamnation à mort à notre place. Et c'est là que l'apôtre Paul a dit, il nous a rendu la vie avec Christ. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est la clé de notre vie. C'est grâce à lui, grâce à Jésus, que nous pouvons être à nouveau en vie, être à nouveau réconciliés avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous permet d'être désormais réhabilités. Et qui nous fait entrer à nouveau dans la présence de Dieu, nous qui étions séparés de cette présence. Dieu est venu visiter notre humanité en s'incarnant en son Fils, Jésus-Christ. Il y a de cela plus de 2000 ans. Il est venu pour prendre à son compte nos fautes et subir la conséquence de nos péchés sur une croix. C'est pour ça qu'il a été crucifié sur une croix, Jésus. Par amour, il a enduré cette mort sur la croix à cause de nous. Mais il n'est pas resté sur cette croix. Il est ressuscité et aujourd'hui il vit éternellement. Et c'est cette résurrection qui nous garantit un nouveau départ, une nouvelle vie, cette vie éternelle. Et nos trois amis seront là pour témoigner qu'ils ont reçu aussi cette vie éternelle. Mais cette œuvre de salut de Jésus-Christ n'est effective que pour celles et ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Le salut, il est là. Il suffit de le recevoir, de reconnaître que nous sommes perdus sans Dieu à cause de nos péchés, et de recevoir ce salut qui a été offert gratuitement en Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible affirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Alors, cette ligne, Carla, je ne sais plus où elle est, Carla. Elle est là. Et Frédéric, vous avez tourné le dos à votre ancienne manière de vivre, n'est-ce pas? Pour vous tourner désormais vers le Seigneur Jésus. Vous avez été convaincu d'être perdu, d'être mort à cause de vos péchés. Et vous avez reconnu d'avoir le besoin d'être pardonné en acceptant que Jésus-Christ prenne la direction de vos vies, en acceptant d'être pardonné par lui. Et dorénavant, vous pouvez bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles de la part de Dieu. Et vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Vous êtes héritier de son royaume. Et l'Église vous encourage vraiment, tous les trois, à persévérer dans votre cheminement avec le Seigneur. Cependant, il faut être conscient que la vie avec Dieu n'est pas une vie de tout repos. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. La Bible dit que tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union à Jésus-Christ connaîtront la persécution. Ce n'est pas forcément une nouvelle très réjouissante quand on entend ça. Mais le Seigneur sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'une manière ou d'une autre, vous rencontrerez peut-être de l'incompréhension dans votre vie de chrétien. Et même de l'opposition dans la famille. Sur le lieu de travail, peut-être. Tenez ferme dans votre foi et dans votre engagement dans l'Église. Il y a un passage qui dit que l'appel que vous vous donnerez au service du Seigneur ne sera jamais inutile. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Alors je me tourne vers l'Assemblée d'une manière globale. Si parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore franchi ce pas de foi, ce pas qui consiste à donner sa vie au Seigneur. Eh bien, Dieu nous appelle aujourd'hui à reconnaître humblement que nous avons besoin de lui. Que nous avons besoin de son pardon, que nous avons besoin d'être réconciliés aujourd'hui avec Dieu. Et ce matin, Dieu nous rappelle que nous sommes tous des pécheurs et que par conséquent, nous sommes destinés à la mort éternelle. Et dans la Bible, vous savez, cette mort éternelle, elle est décrite de manière peu reluisante. Dans la Bible, on parle de tourment éternel. En parlant de cette mort éternelle. Dans la Bible, on parle de lacs de soufre et de feu. On parle de pleurs, d'amers regrets. Ce sont des qualificatifs peut-être sinistres. Mais c'est pourtant une réalité qui attend celles et ceux qui refuseront de se tourner vers Dieu. Et il y a encore temps aujourd'hui de se tourner vers Dieu. Donc, Dieu nous donne encore l'occasion de changer de vie, ce matin même. En recevant le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, en acceptant qu'il vienne prendre les rênes, les rênes de notre vie, qu'il vienne prendre la direction de notre vie. Et pour cela, il suffit de lui demander. Il suffit de reconnaître dans une simple prière que nous avons besoin de lui. Alors, si tel est vraiment notre désir, votre désir aujourd'hui pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi ce pas, eh bien, je vous invite à faire une prière dans votre cœur. Dans votre cœur, suivez cette prière. Si vraiment, voilà, vous avez ce désir de suivre le Seigneur. Nous allons fermer les yeux pour prier. Dieu Tout-Puissant, je te remercie de ton amour et de ce que ton Fils Jésus est venu dans le monde pour mourir pour moi, à ma place. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie. Et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Et je t'en demande pardon ce matin. Seigneur Jésus, je veux maintenant mettre ma confiance en toi. Je veux te recevoir dans ma vie et te suivre. Merci de ton sacrifice à la croix pour me pardonner de tous mes péchés. Je te remercie d'avoir répondu à ma prière et d'être maintenant dans ma vie. Amen. Voilà, si telle a été votre prière ce matin, mais le Seigneur va y répondre et va se révéler dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.